Une vie, une œuvre, Aimé Césaire, 26 juin 1913, Basse-Pointe, 17 avril 2008, Fort-de-France. Sur la terre des parias, un premier homme vint. Sur la terre des parias, un second homme vint. Sur la terre des parias, un troisième homme vint. Depuis, trois fleuves coulent dans mes veines. Ce texte de Léon Gontran Damas pourrait être transposé au mot négritude qui naquit de trois pensées en région parisienne dans les années 1930. Sur la terre des parias, un premier homme vint, Léon Gontran Damas. Sur la terre des parias, un deuxième homme vint, Léopold Sédar Senghor. Sur la terre des parias, un troisième homme vint, Aimé Césaire. Guyane, Sénégal, Martinique sont le terreau de vie qui allait avoir maille à partir avec la poésie, la littérature, la politique. Ensemble, ils créent la revue Légitime Défense en 1932. Puis, en 1934, L'étudiant noir avec Suzanne Roussy qui deviendra la femme d'Aimé Césaire. Il faudra attendre 1939 pour que soit publiée la première version de Retour au pays natal. Aimé Césaire est lié au premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris, puis, en 1956, au premier festival des arts nègres à Dakar, parallèle à sa démission du Parti communiste. Ensuite, il fondera le Parti progressiste martiniquais, sera maire de Fort-de-France, en parallèle à une œuvre profondément poétique. Nejma Bouakra signe avec Christine Robert ce « Une vie, une œuvre, Aimé Césaire ».
Je suis né à la Martinique, bien sûr, mais je suis né dans un petit village du nord de la Martinique qui s'appelle Basse-Pointe. Et je dois dire que cette image de mon village natal a une très grande importance dans mon œuvre. Beaucoup d'images, de métaphores, jouent un peu le rôle d'images obsédantes, et je m'aperçois que la source, en réalité, c'est ce petit village de Basse-Pointe dans lequel je suis né. C'est une pointe qui est baignée par une mer absolument démontée, et c'est un village qui est adossé à la montagne Pelée, la plus haute montagne de la Martinique. Une population mixte de pêcheurs, de paysans. À l'époque, du moins, on y fabriquait du sucre, du rhum. Et il y avait là vraiment toute une population qui est très typique de la population martiniquaise.
Aimé Césaire, un poète tant aimé.
Je m'aperçois que dans ma poésie, souvent il fait allusion à ces troupeaux de bœufs qui sont picorés par ce qu'on appelle là-bas des merles, mais qui ne sont pas des merles, c'est un nom approximatif, ce sont à vrai dire des cuiscals, c'est un peu l'équivalent des pic-bœufs d'Afrique. Ou bien encore ces immenses champs de canne au mois de janvier qui poussent leurs petites fléchettes, c'est encore une image chez moi. Quand j'ai voulu évoquer l'image de la race noire qui, malgré toutes les difficultés, conserve la tête hors de l'eau, un peu une image, si vous voulez, de la vitalité, de la combativité de ce groupe d'hommes, bien très naturellement, j'ai été amené à évoquer l'image de tous ces enfants, tout nus, qui chevauchent les vagues, mais des vagues énormes, des vagues de 12 ou de 13 mètres, sur une simple planche. Et l'enfant disparaît complètement, au moment où on s'y attend le moins, on voit la petite tête noire au sommet de la vague bleue, il faut ranger l'écume.
Être un poète ardent, lyrique, visionnaire, et exécuter son destin selon ses propres termes. Je pousserai d'une belle raideur le grand cri nègre, que les assises du monde en seront ébranlées. Changer le monde, dans son sillage, telle est l'œuvre immense, indistinctement personnelle et politique d'Aimé Césaire. La révolution culturelle aura lieu. Il la vit, la célèbre, la provoque. Aimé Césaire sait se servir de la langue française à son aise, avec les armes miraculeuses de la poésie. Étudiant, il arrive à Paris en 1931, l'année de l'exposition coloniale internationale. Et l'insulte fuse, au détour d'une rue. Nègre. L'homme va retourner le stigmate pour toujours. Combat pour l'égalité, lutte pour les indépendances, contre le racisme. Plus on sera nègre, plus on sera humain, exhorte Aimé Césaire, devenu le nègre fondamental. Creusons-le moi, ce moi nègre, moi créole, moi martiniquais, africain, c'est par l'approfondissement du singulier que l'on va vers l'universel.
je crois vraiment à l'homme, à l'humanité et à la fraternité. Et quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes qui nous considéraient comme des nègres, autrement dit des riens. Eh bien non, nègre, vous m'appelez? Eh bien oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
Daniel Maximin, est-il vrai que Aimé Césaire a jeté à la poubelle ses poésies de jeunesse, ses toutes premières poésies?
Ben, je pense comme tout le monde. D'abord parce qu'il y avait une grande interrogation sur lui-même, peut-être comme tous les Antillais. Il en parle pour Fanon. Peut-être fallait-il être Antillais pour partir à la recherche de soi parmi tant de débris de synthèse qui nous constituent. Moi, je dis, on a quatre continents pour faire une île. Comment faire la synthèse de tout ça dans un être adolescent d'abord, jeune homme en construction, dans une école normale, un lycée Louis-le-Grand, parmi les premiers, parfait modèle du futur petit intellectuel européen, et qui se rende compte qu'il lui manque trois continents, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Et ça peut être que bouleversant. Les profs d'Aimé Césaire disaient que il faut pas que dans vos poèmes, mes enfants, on voit que vous soyez noirs. Il faut être parnassien avec l'esthétique, avec la beauté des paysages tropicaux qui suffit à cacher les malheurs. Et donc c'est ça qu'on leur a appris. Et ils ont réussi parfaitement. Premier de la classe aux Antilles, Louis le Grand, avec une bourse de meilleur élève, l'école normale supérieure, Saint-Gor, l'agrégation de grammaire, tout va bien, ils étaient bien dans le chemin. Alors vous pensez la gravité de la crise quand, en se fréquentant, heureusement en étant à Paris, c'est-à-dire une capitale de l'universel à l'époque, avec les amis vietnamiens, africains, américains du Nord fuyant l'apartheid, les gens de la génération de Harlem, cubains, qui habitait l'hôtel Place de la Sorbonne, c'est-à-dire le monde entier, ce tiers-monde, comme on l'appellera après, ils étaient là devant eux tous les jours, sans parler des nuits, avec les musiciens de jazz, de rumba, de begin et tout cela. Il y a de quoi déchirer dans leurs interrogations, qui étaient nocturnes souvent. Ils ont compris qu'ils étaient, voilà, le roseau de la fable, et non pas le chêne de la fable. Mais ça a été une crise telle que, par exemple, il a raté la grègue et le directeur de l'école normale l'a envoyé en maison de repos quelques mois.
C'est un fauché à qui on a donné une demi-bourse plutôt qu'une bourse entière.
Romuald,
c'est-à-dire
Fonquoi.
Qu'il fallait qu'il se batte pour vivre, genre. Il fallait qu'il se batte pour se nourrir, il fallait qu'il se batte pour s'habiller, il fallait qu'il se batte pour acheter des livres, il fallait qu'il se batte pour aller au théâtre, il fallait qu'il se batte pour aller au cinéma quand c'est possible. Et alors, dans le cas d'un jeune homme comme Aimé Césaire, ça donne une multiplicité de lieux d'habitation à Paris, comme les jeunes d'aujourd'hui, ça donne une vie de patachon, comme les jeunes d'aujourd'hui, ça donne une multiplicité de vie dans les cités universitaires, comme les jeunes d'aujourd'hui, et ça donne aussi plusieurs amitiés totalement imprévues, comme c'était le cas dans les années 30 avec le cosmopolitisme étudiant de l'époque. Il croise tous ceux qui vont compter durant les 80 ans de sa vie, à savoir Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais. Et il va croiser Peter Gouberina, le linguiste, qui sera son ami, si j'ose dire, intime, et qui va l'inviter, bien sûr, à faire le voyage en Croatie, qui est à l'origine du cahier retour au pays natal. C'est ça le début de son itinéraire de poète, du cahier. Parce qu'il n'a pas d'argent pour reprendre le bateau. Et donc, il va se donner l'illusion, précisément, qu'il est rentré à la Martinique.
Il raconte qu'il arrive et qu'on lui donne cette pièce avec une fenêtre qui donne sur la mer. Et il regarde et il voit une île. Et il dit, mais c'est la Martinique. Et on lui dit, il s'appelle en fait Martinisca, c'est-à-dire Martin, quoi, Saint-Martin.
Françoise Vergès.
Et à partir de là, Il va se mettre à écrire son cahier sur cette, dans un cahier d'écolier, justement, il va acheter un cahier.
Septembre.
Et sur cette petite table.
L'accoucheur de cyclone. Octobre, le flambeur de Cannes. Novembre qui ronronne aux distilleries. C'était Noël qui commençait. Il s'était annoncé d'abord Noël par un picotement de désir, une soif de tendresse neuve, un bourgeonnement de rêves imprécis. Puis il s'était envolé tout à coup dans le froufrou violet de ses grandes ailes de joie. Et alors, c'était parmi le bourg, sa vertigineuse retombée qui éclatait la vie des cases comme une grenade trop mûre.
C'est en Croatie que l'évocation de la Martinique lui revient, dans un paysage qui est méditerranéen. Je trouve ça aussi intéressant, c'est-à-dire quel est l'endroit qui vous évoque quelque chose qui a été natal, quoi, qui est lié à votre... Et comment justement cette circulation de lieux de référence se fait aussi, et comment, en voyant un paysage qui n'aurait rien à voir avec une île tropicale, un paysage méditerranéen, évoque quand même ce paysage tropical et fait dérouler à ce moment-là toute une pensée et tout un texte qui est ce pays natal, qu'en est-il, qu'est-ce qu'il est, et d'en parler. Et puis il le finira à Paris. Et c'est ce détour par la Croatie, c'est-à-dire que justement on n'est pas dans un face-à-face France-Martinique dans cette écriture, mais par un petit détour d'un pays qui n'a rien à voir d'une certaine manière dans cette histoire, mais qui était aussi un pays qui a été colonisé, puisqu'il était dans l'Empire ottoman. Et donc c'est des espèces d'échos qui peuvent se faire à la marge ou dans les marges.
Ce qui est à moi, c'est quelques milliers de mortiférés qui tournent en rond dans la calebasse du Nil. Et ce qui est à moi aussi, l'archipel arqué comme le désir inquiet de se nier. On dirait une anxiété maternelle pour protéger la ténuité plus délicate qui sépare l'une de l'autre Amérique. Et ces flancs qui sécrètent pour l'Europe la bonne liqueur d'un Gulf Stream, et l'un des deux versants d'incandescence, entre quoi l'équateur funambule vers l'Afrique. Et mon île non clôture, sa claire audace debout à l'arrière de cette Polynésie, devant elle, la Guadeloupe, fendue en deux de sa raie dorsale et de même misère que nous, Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité, et la comique petite queue de la Floride, où d'un nègre s'achève la strangulation.
Si vous vous souvenez, quand il arrive à Paris, dans les entretiens qu'il m'avait accordés, il dit à quel point il est content de quitter la Martinique.
Un homme frustré, non, parce que la petite bourgeoisie martiniquaise méritait beaucoup. Peut-être que j'exagérais, c'est possible, j'ai pas toujours bon caractère.
Je revois encore ces petits bourgeois de couleur, et très vite j'ai été choquée de constater chez eux une tendance fondamentale à singer l'Europe. Ils partageaient les mêmes préjugés, ils montraient un snobisme que je trouvais superficiel.
Je supportais assez mal cette vie que je considérais comme fausse. Toutes les valeurs qui nous étaient enseignées à l'école, les mœurs, une sorte d'imitation de la vie européenne, cela méritait.
Il dit à quel point partir est une libération. Me rendre en France était pour moi la promesse d'une libération, une possibilité, un espoir d'épanouissement. Je n'aimais pas cette Martinique. Et quand j'ai pu partir, ce fut avec plaisir. Adieu, pensais-je. Et donc, il part avec cette idée, un peu de tourner le dos. Et en fait, ce voyage en Croatie l'autorise à renouer avec ce pays auquel il avait tourné le dos. Et c'est sans doute cette possibilité qui lui permet cette évocation plus proche et plus intime, le pays de ses odeurs, de ses ancêtres.
Oh, in old Virginia,
that time in old Virginia.
Et elle est debout, la négraille. La négra est assise, inattendument debout. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritime, girant la dérive préfète et la voici. Plus inattendument debout, debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout sous les étoiles, debout et libre. C'est un poète éveilleur, un poète qui ouvre la voie, qui débroussaille. Césaire n'est jamais dans la victimisation. Il dit la souffrance, il dit la douleur, mais cette douleur n'est pas un écrasement, n'est pas une impossibilité. Elle est un fait, mais elle ne nous condamne pas. Donc il y a un chemin, chaque fois, une possibilité, une ouverture.
Et je me dis Bordeaux, et Nantes, et Liverpool.
Et je me dis...
Et New York.
Bordeaux.
Et San Francisco.
Nantes, et Liverpool, et New York, et San Francisco. Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale. Et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciels, et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi? Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama.
En 1941, Aimé Césaire, mais Suzanne également, René Ménil, un certain nombre donc, de Martiniquais ont un courage fou, c'est-à-dire de publier une revue qui est pourtant est interdite.
Sera interdite.
Sera interdite très rapidement par Vichy.
Ce sont des intellectuels un peu remuants et ils disent dans leur présentation, avril 41, trois jours après que Suzanne ait accouché de leur troisième enfant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Le monde a besoin de nous aussi. C'est cette fameuse phrase qu'André Breton, Yves Dolam, Anna Seghers et Lévi-Strauss vont lire quand ils vont débarquer en fuyant Hitler à toute vitesse et en passant trois semaines en Martinique. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce miracle? Qui sont ces gens qui disent que nous allons vaincre? Et donc même là, pendant la revue Tropique, ils disent ça. Une poésie d'avant-garde, libérée, parce qu'on ne peut pas faire une libération personnelle, collective, si elle n'est pas aussi esthétique. Ce n'est pas dans les vers anciens qu'on va décrire un monde nouveau. Alors que c'est le plus grand moment de la défaite. Hein, avril 41, on a perdu la guerre. Hitler a gagné. Et en Martinique, on retrouve le fascisme et les pétainistes dans leur plus dure acception. Et vous imaginez Breton, quand il débarque tous ces gens, espagnols, allemands, opposants, français, intellectuels, poètes, peintres, eh bien, ils arrivent dans la gueule du loup. Puisque ce bateau ne va pas à New York, il va en Martinique. Ils sont arrêtés. On les rassemble dans un camp. À un moment, on leur donne des moments de liberté. Et, miracle, Breton, pour sa petite fille de 5 ans, va acheter un ruban dans une mercerie. Et sur le bord, là, il y avait un petit truc. Vous imaginez une vieille revue locale mal présentée. Vous imaginez le grand André Breton, qui était déjà dans sa posture de grand poète surréaliste. Je suppose, franchement, qu'il n'avait aucune envie de regarder cette revue. C'est un poète local, un barde tropical. Mais en fait, quand même, comme c'est un livre, il prend et il ouvre et il dit « Je me suis trouvé devant le plus grand monument lyrique de ce temps, une page du cahier. » Et puis il lit la préface. « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. » Avril 41. Vous imaginez le choc. Et... Mais qui sont ceux? Oh, ben c'est des copains. Prof, lui répond la Mercière. Il dit, c'est mon beau-frère, moi je peux lui dire, si vous voulez le voir, ben demain, à la sortie du lycée. Et ça a été peut-être une des plus fortes rencontres sur le plan culturel par rapport aux Antilles, y compris à Breton, dont les pensées
ont été transformés par cette rencontre.
Breton, tout de suite, reconnaît la grande poésie.
Annie Lebrun.
Qui fait qu'il y a eu cette proximité, cette rencontre que l'un et l'autre ont pu croire qu'il pouvait y avoir confusion entre leurs démarches, c'est que de part et d'autre, à l'origine, il y a une formidable révolte contre ce que Breton appelle l'inacceptable condition humaine. Et effectivement, dans le cas de Césaire, elle passe par l'affirmation de ce qui fait qu'il est tout à fait autre et qui vient d'un autre horizon. Ce qui est capital dans l'apparition de Césaire et ce qui donne cette force lyrique à sa poésie, c'est que derrière, il y a un homme tout entier. Et que au moment justement où la poésie occidentale s'essouffle, au moment où elle tend à devenir de plus en plus une spéculation langagière, tout d'un coup, là, des mots reviennent et des mots qui ont un poids de chair et de sang. Et ça, c'est, je pense qu'en ce sens, c'est extrêmement important dans l'histoire même de la poésie. Et là encore, je pense qu'il faut aussi rendre hommage à Breton qui voit tout de suite ça.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a chez moi une quête.
Aimé Césaire.
Qui est la quête de l'être. Et cette quête, je l'opère par l'instrument du mot. Le mot m'apparaît comme une sonde ou une tête chercheuse, mais c'est un petit peu cette confiance que je fais au mot, et c'est ainsi que se forme chez moi le poème. Et il y a aussi la leçon que j'ai retenue de Breton. Et ce qu'il m'a enseigné, c'est que j'ai retenu de lui en tout cas, et c'est la liberté, la mission exploratoire qu'il confie à la parole. Ça a été pour moi un très grand enseignement. Par le mode poétique, on crève la carapace, on dépasse les surfaces et on a toute chance d'atteindre, ou en tout cas c'est le souhait que je forme, c'est ce que je recherche, aux gisements les plus profonds. Quand je parle du gisement le plus profond, pour moi, c'est le gisement africain.
Il y a un passage que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est le passage du numéro 10 de la revue Tropique.
Prisca Degrin.
Dans ce passage, Césaire présente, dès 1941, il avait présenté déjà des 39 dans un cahier d'un retour au pays natal, ce qu'on peut appeler la magnificence du nègre. Bien avant le Black is beautiful, cette vision prophétique de Césaire qui va replacer le nègre sur la scène de l'histoire. Et Césaire écrivait « L'esclavage pèse sur nous, c'est entendu, mais lui attribuer à lui seul notre pauvreté actuelle, c'est oublier que sous le régime de l'esclavage, le nègre fut magnifique. On lui brisait le corps, on lui torturait l'âme, et le nègre résista, au fouet, aux docteurs en bonnet carré, aux théologiens, aux sadiques, au mépris il opposa l'humour, cette force que ne connaissait pas le grave indien. Aux ténèbres de la fausse science, il opposa tantôt l'attente, tantôt la révolte, jamais la résignation. N'en seront étonnés que ceux qui ne savent pas ce qu'était alors l'Afrique. De vastes empires, des monarchies pleines de magnificence, des cérémonies étranges et belles. Des contacts insolites et purs, une dignité, une sincérité insurpassée, et le nègre était gonflé de vie, de force et riche, riche de sensualité, de spiritualité, riche, et il s'arc-bouta, frappa, mordit, dompté, il ne le fut jamais.
Il est question de transfiguration aussi pour l'homme noir, c'est-à-dire de changer d'être, de se redécouvrir et de se transformer. Il est question de transformation.
Oui, bien sûr, on pourrait même parler d'une sorte de métaphysique de la négritude, mais je ne sais pas si parler de métaphysique veut dire qu'il y a une mystique. On peut dire effectivement qu'il y a une ambition ontologique chez Césaire qui est de transformer l'être noir. Enfin, l'être noir, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Il y a des êtres noirs, des mondes noirs, mais de transformer de manière radicale, ce qui a été un passé d'indignité, un passé de servilité, d'humiliation, de transformer tout cela de manière éclatante, bien sûr. Ça, on peut dire que c'est sa foi de croyant dans une nouvelle humanité. Ça, c'est absolument évident.
Ô lumière amicale, ô fraîche source de la lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. C'est-à-dire la vie des anonymes, des personnes qui construisent le monde, et notamment la question des esclaves, et qui construisent la richesse, et qui sont rendus invisibles par autant dans la représentation, dans l'histoire. De toujours voir qui est oublié, comment l'oubli est fabriqué, qui fabrique l'oubli, avec quels outils c'est fabriqué, et comment l'oubli devient finalement une manière de voir. C'est-à-dire, en fait, on s'habitue à ne pas voir, à faire disparaître, à effacer des vies.
Donc, camarades, te seront ennemis de manière haute, lucide et conséquente.
Discours sur le colonialisme.
Non seulement gouverneur sadique et préfet tortionnaire, non seulement colon flagellant et banquier goulu.
Lu par Antoine Vitesse.
Non seulement macroteur, politicien, lèche, chèque et magistrat aux ordres, mais pareillement et au même titre, journaliste fielleux, académicien, goitreux, endollardé de sottises, ethnographe, métaphysicien et dogoneux, théologien farfelu, intellectuel jaspineux, sorti tout puant de la cuisse de Nietzsche ou chuté, calendaire, fils de roi, dont ne sait quelle pléiade. Les paternalistes, les embrasseurs, les corrupteurs, les donneurs de tapes dans le dos, les amateurs d'exotisme, les diviseurs, les sociologues agrariens, les endormeurs, les mystificateurs, les baveurs, les matagraboliseurs, et d'une manière générale, tous ceux qui, jouant leur rôle dans la sordide division du travail pour la défense de la société occidentale et bourgeoise, tentent de maintenir diverses et par diversion infâme de désagréger les forces du progrès, quitte à nier la possibilité même du progrès. Tous, suppôts du capitalisme, tous, tenants déclarés ou honteux du colonialisme pillard, tous responsables, tous haïssables, tous négriers, tous redevables désormais de l'agressivité révolutionnaire. Et balayez-moi tous les obscurcisseurs, tous les inventeurs de subterfuges, tous les charlatans mystificateurs, tous les manieurs de charabia, et n'essaie pas de savoir si ces messieurs sont personnellement de bonne ou de mauvaise foi, s'ils sont personnellement bien ou mal intentionnés, s'ils sont personnellement, c'est-à-dire dans leur conscience intime de Pierre ou Paul, colonialistes ou non, l'essentiel étant que leur très aléatoire bonne foi subjective est sans rapport aucun avec la portée objective et sociale de la mauvaise besogne qu'ils font de chien de garde du colonialisme.
Quel retentissement a ce texte, Discours sur le colonialisme, qui paraît en 1950, puis de nouveau en 1955, chez Présence africaine, Françoise Vergès?
Discours sur le colonialisme est pour moi un des textes absolument fondamental et un des textes de théorie politique, pas simplement un texte manifeste. Césaire analyse le colonialisme et sa brutalité à la lumière de ce qui s'est passé en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en résumé, il dit « Ce qui vous est arrivé, vous l'avez fait ailleurs. On ne colonise pas impunément. » Donc il fait ce discours, c'est une dénonciation très sévère de l'État colonial. Mais d'une certaine manière, si on prend au sérieux ce que Césaire dit sur l'effet retour de tout cela, il y a un moment où l'Europe doit se pencher sur la manière dont elle-même a été colonisée par sa propre pensée coloniale. Sa propre pensée coloniale a pénétré non sa philosophie, son droit, César, sa culture, sa pensée, sa manière d'organiser même la vie politique ou la représentation politique. Et donc, pour que l'Europe sorte de cet ensauvagement, il faut qu'elle se décolonise. Les peuples, ils se décoloniseront, mais vous, que faites-vous pour vous sortir de là? Vous êtes devenus des bêtes, il le dit, c'est-à-dire il retourne le cliché qu'on donne, les Africains sont des sauvages, sont des bêtes, il dit c'est vous. Vous êtes devenus des bêtes. Vous avez perdu votre propre dignité.
Voici une boîte. Qu'est-ce que c'est que cette boîte, Sarah Friou?
C'est des archives qui sont arrivées au musée en 2009. Moi, je suis archiviste au musée du Quai Branly. En faisant l'inventaire, je suis tombée sur un manuscrit d'Aimé Césaire intitulé donc « Impossible contact ». Qui avait été publié à l'occasion d'un numéro spécial de cette revue Les Chemins du Monde intitulé Fin de l'ère coloniale, donc qui datait de 48. je commençais à lire ce texte, je l'ai fait lire aussi donc à Romuald Foncois, spécialiste d'Aimé Césaire, on l'a lu plusieurs fois, et là on se rend compte que c'est un premier jet du fameux discours contre le colonialisme, sur le colonialisme, publié 2 ans plus tard, aux éditions Réclame.
Édition du Parti communiste. On ouvre alors ce trésor.
Donc j'ouvre la boîte. Et là, voilà, dans les boîtes d'archives, voilà, les boîtes Cochard, c'est classique. Et se trouve donc, comme vous pouvez le voir, ce fameux manuscrit, L'impossible contact, donc avec intitulé Assemblée nationale et voilà la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, c'est quand même donc L'impossible contact par Aimé Césaire et sa petite écriture toute fine, vraiment. Voilà, qu'on reconnaît facilement. Donc c'était quand même très émouvant de trouver ce document et voilà, et d'avoir ça ici, c'est vraiment inédit, exceptionnel. Personne ne le connaissait, ce texte.
Les premières lignes de ce manuscrit, vous nous les liriez ?
Donc les premières lignes, la malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendez dangereusement, qu'est-ce qu'en son principe la colonisation.
N'oublions pas, les colonies qui ont été esclavagistes, puisqu'il y a d'autres colonies entre-temps, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, qui ont été les colonies esclavagistes de l'Empire français, ces territoires sont... ce sont des citoyens en 1948, les hommes ont le droit de vote, mais ils sont toujours sous statut colonial. Ce n'est pas un statut d'égalité. Donc les lois adoptées en France ne sont pas appliquées systématiquement. La deuxième chose, c'est le constat à la fin de la guerre d'une misère noire dans ces territoires, après pratiquement 3 siècles de colonisation française. Des taux de mortalité infantile absolument effrayants, une situation dans la santé, dans l'éducation absolument effrayante. Une autre chose aussi, je pense qu'on doit considérer à la sortie de la guerre, c'est que la situation internationale a changé. Il y a une condamnation universelle du racisme après le nazisme. Et les textes, les déclarations universelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme commence par ça. Affirme aussi le droit d'autodétermination des peuples. On a le début de la décolonisation partout. Donc il y a un contexte international qui ne permet plus à la France d'avoir l'empire colonial comme elle l'avait avant la Deuxième Guerre. C'est plus possible. Donc il faut aussi inventer un nouveau vocabulaire et de nouvelles formes de relations avec cet empire. Dans tout ça, c'est les députés qui sont élus dans ces 4 territoires portent la demande de départementalisation, donc d'égalité sociale. Donc, et Césaire est choisi, il accepte d'être candidat. Et il est élu avec une majorité extrême. Et il sera le rapporteur de cette proposition de loi.
Est-ce qu'il est mal assis, là, Aimé Césaire, à l'Assemblée ? C'est une tribune à la fois c'est une tribune, et à la fois il est isolé. Il dit qu'il vient du plus petit canton du monde.
Il est isolé, il est en même temps soutenu, puisqu'il était associé au Parti communiste français. Et c'est la demande de départementalisation est soutenue par le Parti communiste français, qui est encore assez puissant à l'époque. Donc, par exemple, la proposition de loi est adoptée, elle est votée sans grande opposition. Par contre, plutôt ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est adoptée, ça ne fait absolument pas événement. Moi, je me souviens d'avoir lu tous les journaux nationaux de l'époque à la suite du 19 mars. C'est pratiquement pas signalé, ça n'a aucune importance. Ça n'a strictement pas aucune importance aux yeux de la société française. Ce dont il est question, c'est justement la reconstruction du pays, les voies ferrées qui marchent pas, l'approvisionnement, l'hiver a été très dur. Et ce qui est frappant, c'est que lors de la discussion, le gouvernement signale déjà que l'égalité ne pourra pas être obtenue, que la priorité, c'est la reconstruction de la France. Et donc, vous passerez en second. Donc, il y a tout de suite une contradiction entre cette demande d'égalité, en principe, dans la loi, oui, maintenant vous êtes devenu un département, et dans les faits, on leur dit, vous n'aurez pas l'égalité. Et il va effectivement s'engager fortement pour une demande de justice sociale et d'égalité. Il va rester quand même député pendant 2 décennies, plus de 2 décennies, et il va vraiment s'engager fortement, à côté de son activité de poète et de dramaturge.
C'est vraiment le hasard de la vie a voulu que j'ai été élu maire, j'ai été élu député. Mais ce sont vraiment pour moi des charges épouvantables et je dois prendre beaucoup sur moi-même pour accepter de jouer le jeu, enfin. Ce n'est pas des choses que j'aime.
Aimé Césaire.
Bah, je me crois très orgueilleux. Je me crois très orgueilleux parce que s'il y a une chose que je n'ai jamais supportée, et c'est orgueilleux. Je crois que cet orgueil se comprend très bien. Ce n'est pas lié à la vanité, mais à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons sociologiquement. Il y a une chose que je n'ai jamais pu tolérer, c'est vraiment c'est l'humiliation. Alors moi, des choses qui m'ont humilié, eh bien, je ne pardonne jamais. Et il me m'arrive parfois la nuit d'être réveillé par le souvenir d'une humiliation que j'ai subie il y a 30 ans. Et peut-être même la personne qui m'a humilié ne le sait même pas. Alors là, vraiment, je suis même parfois étonné. Je dis, comment je croyais avoir oublié ça? Et puis, je sens que la blessure est encore là. Je n'ai pas supporté ça. J'ai horreur du paternalisme. Des gens qui me tapent sur le dos. Non, j'ai ça en horreur. Mais je crois que je ne veux de mal à personne. Je me crois bon. Là, c'est une qualité, c'est un peu bête. Mais enfin, certainement, j'ai toutes les peines du monde à imaginer un être méchant. Enfin, un être méchant et cruel, et cela me révolte profondément.
Pourriez-vous nous décrire, Daniel Maximin, le Paris noir des années 50 et l'effervescence culturelle de ce Paris-là?
Paris est une capitale du tiers-monde à ce moment-là. D'abord parce que politiquement, tous ceux qui représentent ces colonies se trouvent à Paris députés. Il y a à peu près 80 députés africains et autres qui sont là. La vie politique est rassemblée. Parce que celui qui est du Congo, celui qui est du Sénégal, du Mali, du Cameroun, il ne se voit pas dans ces pays. Il se voit à Paris. Les étudiants en médecine, vétérinaire, littéraire, ils sont à Paris. Depuis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, les gens de la Nouvelle-Orléans, qui étaient françaises, qui étaient créoles, les Noirs libérés de la bourgeoisie, petite bourgeoisie, envoient pour leurs études leurs enfants en France. Paris, c'est l'endroit où le plus grand écrivain français est un Noir, disent-ils à leurs enfants, et tu iras le saluer dans sa loge à la Comédie-Française. Il s'agissait d'Alexandre Dumas. C'est ce qu'on appelle un gros mulâtre avec ses cheveux comme ça. Et puis, eux d'Amérique le savaient. Et pour eux, c'était le symbole même de cette possibilité d'étudier dans un pays où l'esclavage était depuis longtemps, par rapport à eux, une affaire résolue.
Et la ségrégation aux États-Unis aussi.
Mais oui, permanente. Donc, on voit bien comment une habitude, je dirais même une tradition de présence et de rencontre. C'est là qu'on se voit. La capitale de la rencontre. Un Sénégalais rencontre un Congolais pour la première fois. Rencontre un Vietnamien. On ne se voit pas chez soi. On est fermé, isolé, colonisé. On se voit à Paris, qui paradoxalement est bien la capitale de l'État colonial, mais surtout pour eux, la capitale de la décolonisation. Le centre culturel de tout ce qui avait comme colonisé, qui était à côté de la Sorbonne.
Maison d'édition et revue.
Et revue.
Présence africaine, c'est une revue qui naît en 47, une maison d'édition qui naît en 49 et une librairie qui ouvre en 62. Et c'est surtout j'avais appelé une exposition qui a eu lieu au musée du Quai Branly en 2009, Présence africaine, une tribune, un mouvement, un réseau, une tribune, un mouvement. Voilà, c'est un peu tout ça. Et là, tous les intellectuels antillais, africains, africains-américains présents à Paris vont évidemment adhérer à ce projet éditorial qui va être vraiment un lieu de discussion assez extraordinaire, hein, où tout le monde aura la parole. Et c'est ça qui est très important.
Et surtout, librairie. C'est-à-dire un lieu. Il n'y a pas de chaise. Ce n'est pas une bibliothèque. Là, on fait silence et on a ses livres. C'est une librairie, là, on parle. Et en face, il y a deux cafés. Et je vous assure que pendant des décennies, c'était le centre culturel sauvage et politique aussi. Césaire sortait, prenait son bus de l'Assemblée nationale, passait avec Michel Léris. Alors, on le coinçait, parce qu'il n'aimait pas, c'est un sauvage. Monsieur Césaire, est-ce que je pourrais vous poser une question? Venez. Et il allait dans le bureau d'Alioune Diop. Et ça a eu un rôle absolument majeur. Pour moi, c'est un monument historique du tiers-monde. Hein. C'est 25 bis rue des Écoles, dans le 5e.
C'est la Sorbonne du tiers-monde qui est toujours là avec la vieille Madame Diop, qui était l'épouse d'Alioune Diop, toujours forte et présente dans cette librairie.
Afrique, Afrique, oui Afrique, où résonne le tam-tam de la liberté.
À deux pas de présence africaine, liberté, une affiche sur les murs. Un homme, jeune, de profil, noir. Elle est signée Picasso. Le profil est celui du fils d'Aimé Césaire.
Ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
1956, congrès des écrivains et artistes noirs. Amphithéâtre Descartes, la Sorbonne rayonne d'une spiritualité toute nouvelle. James Baldwin, Richard Wright, Amadou Ampataba, des auteurs noirs du monde entier déclarent séance tenante le changement d'air. On a conscience d'accoucher d'un monde nouveau et quelques espions américains ont été dépêchés pour l'occasion.
Et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande chaîne de pouvoir.
Alors, ce qui se passe, c'est que Alioune Diop va faire avec le Congrès exactement comme on organise un congrès de l'ONU. On doit convoquer des délégués. Chaque individu qui est invité est le représentant de son pays. Donc il invite tout le monde, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Camerounais, les Sénégalais, les Congolais, etc., etc. Et il va rajouter à cela ceux qui n'ont pas de pays, c'est les Noirs-Américains. Donc c'est bien une affaire de politique qui vise précisément sous le couvert de la culture de pouvoir réunir le monde noir. Le monde noir des intellectuels. C'est intellectuel et artiste noir, mais c'est intellectuel d'abord. Et ces intellectuels-là vont prendre la parole pour dire quoi ? Une seule chose et pas deux. Nous sommes des nègres. Et ça se dit dans toutes les langues. Au début, ça n'intéresse pas grand monde. Il faut attendre le troisième jour où justement il y a la foule justement de tous les jeunes noirs du quartier latin. Et arrivant à la salle des cartes, il y a quelque chose qui se produit qui est assez intéressant. C'est que pour la première fois, ces intellectuels noirs vont donner à voir aux autres noirs de Paris les œuvres qu'ils ont créées. Et c'est là que Alioune Diop va frapper un grand coup, c'est qu'il va récupérer toutes les œuvres qui ont été publiées ailleurs, dans d'autres maisons d'édition, va les publier justement en 1956 et exposer dans le grand hall justement de la Sorbonne, en faisant justement des séances de dédicace, les œuvres qui sont les œuvres justement des intellectuels noirs. C'est une sorte d'exposition des hommes et des œuvres permettant de rendre compte de ce que peut être justement le monde noir de l'époque.
En 1956, ce congrès des artistes et auteurs noirs, est-ce qu'il inquiète ? On est à une période extrêmement complexe avec la guerre froide, à une période où des luttes d'indépendance se mènent.
Le problème qui est posé, c'est est-ce que le congrès de 1956 organisé par Alioune Diop n'est pas une sorte de face cachée de la présence des communistes en France, puisque la plupart des participants sont communistes.
Il ne faut pas oublier que Césaire est allé plusieurs fois en Union soviétique. Il a écrit des textes extrêmement enthousiastes, et en signalant que là-bas, il n'a subi aucun racisme. Ce que disaient beaucoup de Noirs américains aussi qui allaient là-bas, et qui étaient contents d'aller là-bas, qui disaient « voilà, ça c'est le futur, c'est un pays où le racisme a été éliminé ».
1956, c'est une année pivot, c'est une année de rupture.
1956, c'est l'année de la rupture d'Aimé Césaire avec le Parti communiste français. Et la lettre du 24 octobre 1956 est pour moi aussi, avec Discours sur le colonialisme, un texte d'une très grande importance qui a une résonance jusqu'à aujourd'hui. Elle est provoquée d'une part par la dénonciation des crimes de Staline par Khrouchtchev, lors du congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Il y a aussi, le Parti communiste français ne s'oppose pas au vote des pouvoirs spéciaux donnés à ceux qui gouvernent l'Algérie. Et les pouvoirs spéciaux, ça veut dire d'installer la torture, les droits de la police a tous les droits en Algérie. Et le PCF ne vote pas contre, ne fait pas campagne contre. Et Césaire décide que là, trop c'est trop, pour lui ça dépasse les bornes, et il écrit cette lettre. Elle est envoyée le 24 octobre 1956 à Maurice Thorèse, qui est alors secrétaire général du Parti communiste français, en tant que député de la Martinique. Je dis qu'il n'y aura jamais de variante africaine, ou malgache, ou antillaise du communisme, parce que le communisme français trouve plus commode de nous imposer la sienne. Qu'il n'y aura jamais de communisme africain, malgache ou antillais, parce que le Parti communiste français pense ses devoirs envers les peuples coloniaux en termes de magistère à exercer et que l'anticolonialisme même des communistes français porte encore les stigmates de ce colonialisme qu'il combat. L'époque que nous vivons est sous le signe d'un double échec, l'un évident depuis longtemps, celui du capitalisme, mais aussi l'autre, celui effroyable, de ce que pendant trop longtemps nous avons pris pour du socialisme et qui n'était que du stalinisme. Le résultat est qu'à l'heure actuelle, le monde est dans l'impasse.
(1966) Festival mondial des arts nègres à Dakar.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs.
Colloque, l'art nègre dans la vie.
Le thème de ce colloque est ainsi formulé. Fonction et signification de l'art négro-africain dans la vie du peuple et par le peuple.
Voilà, je pense que quand on est un intellectuel dominé, il faut réfléchir à un certain nombre de stratégies. On voit, là, les éditions Jean-Michel Place viennent de publier tous ces textes politiques. C'est aussi se dire qu'à l'Assemblée, il va pouvoir prendre la parole. Et c'est pas rien de se faire entendre. Et participer au combat contre le colonialisme et pour les indépendances au sein de présence africaine. Et je pense que c'est ce qui est passionnant chez ce personnage. Ces multiples stratégies. Le politique, le poète et le militant.
Que pour répondre à cette question particulière, fonction et signification de l'art dans le monde moderne. Autrement dit, avant de parler de l'art africain et de sa signification pour l'Afrique moderne, le mieux m'apparaît de parler de l'art tout court et de sa fonction dans le monde tout court.
En fait, oui, Césaire, vers la fin des années 50, intervient autour de l'idée de l'africanité, de la négritude. Il va intervenir dans des universités à Miami, il va être invité. La réflexion se porte sur qu'est-ce que c'est qu'être noir et être un être humain, c'est-à-dire à la fois être un être humain, mais être désigné comme noir. Il y a plusieurs débats qui se mènent en même temps auxquels Césaire participe.
Jamais, comme aujourd'hui, le monde n'a eu autant besoin de l'art. Avec la pensée européenne moderne, je dis bien moderne, car l'Europe n'a pas toujours été ce qu'elle est, ce que nous voyons qu'elle est, avec la pensée européenne moderne, classique, est né un processus nouveau, celui que certains penseurs ont appelé un processus de réification, c'est-à-dire de chosification du monde. Les conséquences, vous les connaissez, c'est l'apparition du monde mécanisé, du monde de l'efficience sans doute, mais aussi du monde où l'homme devient chose lui-même, du monde où le temps n'est plus le temps, mais une manière d'espace remplie de choses quantitativement mesurables, ce qui permet de dire que le temps c'est de l'argent. Bref, nous sommes en face d'une dévalorisation progressive du monde qui débouche très naturellement sur l'apparition d'un univers inhumain sur la trajectoire duquel se trouvent le mépris, la haine, la guerre, l'exploitation de l'homme par l'homme. L'art et la poésie rétablissent la dialectique de l'homme et du monde. Que jamais le besoin poétique ne se fait autant sentir, que jamais l'homme ne s'accroche à la poésie de manière si désespérée comme à une dernière planche de salut qu'au sortir de ces époques pleines de bruit et de fureur qui s'appellent la guerre, que cette guerre soit la guerre chaude ou que cette guerre soit la guerre froide, précisément au sortir de ces époques où la non-communication et la chosification se sont exacerbées à un degré proprement intolérable.
Daniel Maximin, 1966, Festival mondial des arts nègres, Aimé Césaire représente la France avec le roi Christophe. Et là, on est au sortir des indépendances, les textes d'Aimé Césaire ont du coup un nouveau sens. La liberté est acquise, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ?
Eh bien, il faut la sauver, il faut la préserver, parce qu'elle est évidemment toujours en danger. Il m'arrive de dire souvent que la libération concerne les hommes dans l'histoire. Les poètes, eux, sont concernés par la liberté. Et aucune libération n'arrête le vœu de liberté. Or, souvent, les libérations se terminent par de nouvelles oppressions, de nouvelles prises du pouvoir.
Et vous faites la liberté nouvellement acquise, hein, 66 à Dakar, donc on peut dire les fils déracinés viennent un peu saluer la liberté. Mm-hmm. Là, tout le monde se retrouve autour de cette liberté chérie, là. Mais surtout, Césaire n'arrête pas le combat pour autant.
Oui, mais c'est surtout pour la première fois en Afrique. C'était quand même Paris qui était la capitale de cette libération. Mais quelle beauté de pouvoir se retrouver dans la mer Afrique. Donc le sens profond du festival de Dakar, c'est ça. Les Antillais n'avaient pas vu l'Afrique depuis 3 siècles. Depuis 3 siècles. Et toute l'Amérique, Duke Ellington, des écrivains, la musique, allaient à la découverte de l'Afrique. On savait qu'il fallait être ensemble, et on savait qu'il fallait être ouvert, et on savait qu'il fallait être créateur.
On peut l'affirmer sans crainte, jamais l'Afrique n'a eu autant besoin de l'art. Jamais elle n'a eu autant besoin de son art, de son propre art.
Hier avec Duke Ellington, aujourd'hui avec Marion Williams, l'âme des Noirs américains a été présente à Dakar. Grâce à ce roi du jazz, grâce à cette grande dame du blues, Harlem s'était pour quelques jours transplantée en Afrique.
Pour les Américains, il y a Duke Ellington, Langston Hughes, le grand poète, Josephine Baker, qui est plutôt âgée, qui avait fait un chant très marrant avec des plumes sur la tête, hein, mais qui était très, très engagée. Des écrivains comme Wole Soyinka, hein, qui sont tout jeunes. Le réalisateur de cinéma Sem Ben Ousmane, hein, qui va recevoir un prix pour son film La Noire 2. Il y a eu une grande exposition d'art contemporain, une grande exposition d'art ancien. Il va y avoir des troupes nationales, là, c'est des troupes de danse nationale. C'était aussi là, c'était très peu de temps après les indépendances et les pays essayaient d'envoyer voilà des troupes de danse, de chanteurs. Alors c'était un peu folklorique, hein, aussi.
Par moments, l'assistance emportée par le rythme et la joie s'est trouvée au bord du délire, scandant des mains et des pieds les performances vocales d'une admirable chanteuse. Le frisson des grands instants, de ces instants privilégiés que connaît le jazz, passait dans la cathédrale de Dakar. Ici Bernard Schoeffer qui vous a parlé depuis le premier festival mondial des arts nègres de Dakar.
Veuillez écouter à présent un court extrait de l'œuvre d'Aimé Césaire, Le Roi Christophe, interprété par Doutasek.
Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. S'il y a une chose qui, autant que les propos des esclavagistes, mérite, c'est d'entendre nos philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est penser à son aise et hors du monde, madame.
Aimé Césaire avec le roi Christophe, oui, pose la question de la responsabilité.
Ah ben, et Césaire, lui, il voit toujours plus loin. Et donc, au moment même de cette libération politique, sociale, il pose la question, qu'allons-nous faire de cette liberté? Parce que nous savons, nous, dans l'histoire des Antilles, libérés depuis plus avant, notamment Haïti, qu'on peut avoir une accumulation de dictatures au nom de cette libération.
Et voilà pourquoi il faut en demander aux nègres, plus qu'aux autres, plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagné chaque pas. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs. Et malheur à celui dont le pied flanche.
Vous avez cette phrase terrible dans le roi Christophe. Il est temps de mettre à la raison ces Noirs qui croient que l'indépendance, ça consiste à prendre la place du blanc et en lieu et place du blanc, à faire le colonisateur. Hein, on met un petit peu de peinture noire et puis on fait pire parfois que le colonisateur. C'est quand même très fort, surtout en 64, parce que les choses ont déjà commencé. Sékou Touré était le premier à libérer son peuple par le nom à De Gaulle en 1958, et déjà dès 1960-62, il y a déjà des arrestations, des mises en prison, des meurtres, des choses comme ça. Il est déjà en train de devenir un dictateur. Et c'est le grand risque. Et les guerres ne sont pas finies. Là, le Congo belge, on connaît la tragédie extraordinaire. En 6 mois de liberté avec Lumumba, l'affaire est achevée et les espérances sont battues. Et le dépeçage commence. Et Césaire écrit en même temps une saison au Congo à la suite, justement pour dénoncer ça, mais en même temps dire l'espérance possible. Comme Haïti avec le roi Christophe, ce sont des tragédies, comme il dit, mais ce sont des tragédies qui sont là pour nourrir l'histoire et nourrir le combat de la seule chose qui compte, la résistance au nom de la liberté.
Faites-nous de la bonne politique africaine. Faites-nous... Faites-nous une bonne Afrique. Faites-nous une Afrique où il y a encore des raisons d'espérer, des moyens de s'accomplir, des raisons d'être fier. Refaites à l'Afrique une dignité et une santé, et l'art africain sera sauvé.
Daniel Maximin, vous avez aimé Césaire. Vous l'avez connu?
Oui.
Côtoyé?
Oui, bien sûr, de près. Oui.
Je crois que vous avez peut-être quelques legs de lui ou quelques poésies peut-être peu connues, puisque ce sont des armes miraculeuses, les poésies. Est-ce que vous nous en feriez découvrir une de votre choix?
Alors, dans une de mes dernières conversations avec le vieil Aimé Césaire, vers 93, il m'avait montré le poème qu'il écrivait à ce moment-là. Et j'ai été ému terriblement par les deux brouillons, chose rare, puisqu'il mettait au panier la feuille d'avant pour reprendre une feuille et recommencer. Et ce poème, il n'avait pas de titre, ce qu'il faisait souvent aussi, et puis il en a mis un après « État des lieux ». Vous voyez ?« État des lieux du vieil homme ». Et ça commençait comme ça dans le premier brouillon. « Source, tarie, mare desséchée, abritée derrière mon rideau de fougère, j'affronte le passage. » Cette feuille, il a barré. Et il a pris une autre et il a écrit « Source, non tarie, mare, non desséchée, abritée derrière mon rideau, j'affronte le passage. » Et cette feuille, il l'a barrée, et il a pris une troisième, qui était la définitive. Il a écrit « État des lieux », et il a écrit ceci, « Source jamais tarie, mare, non desséchée, abritée derrière mon rideau de fougère, j'affronte le passage. » Imperturbé d'avoir parlé de ma gorge resserrée, laissant gorge de l'amont et hélé par langage les pistes de l'avenir. Je crois que ça dit tout sur toute une vie.
Aimé Césaire, un poète tant aimé. Avec Daniel Maximin, Romuald Foncoua, Françoise Vergès, Sarah Friou-Salgas, Prisca Degras. Prise de son, Michel Gassic. Mixage, Bruno Mourland. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omilenenko. Une vie, une œuvre, Aimé Césaire, un poète tant aimé. Benjamin Boicra, Christine Robert.
C'était Une vie, une œuvre que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site de France Culture. Vos commentaires sont bienvenus sur Twitter ou Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 16h pour Une vie, une œuvre consacrée à Louise Michel.